Donc, je vais peut-être commencer par pour introduire la soirée, avant de donner la parole à Patrick, essayer d'expliquer quelque chose qui est inexplicable, c'est-à-dire de ce qu'on entend par la poétique. Donc là, il y aura trois rencontres sur cette thématique-là, de la poétique de soins. Et donc, je vais tenter de mettre un peu en mots, en mots tout ça. Donc l'objectif de l'ethnocafé, c'est d'apporter de la connaissance sur le soin. Donc comment on peut apporter de la connaissance sur le soin? Alors bien sûr, si vous interrogez les gens, moi, j'ai l'impression que tout de suite, on va penser aux études biomédicales et au travail de la recherche en médecine. À juste titre. Et c'est vrai que le travail de la recherche en médecine a toujours cette tendance de prendre un peu de distance avec l'être humain par le biologique. On se focalise sur la question biologique, on fait des études épidémiologiques auxquelles on se réfère largement. Enfin, moi je suis toujours surpris quand vous discutez avec des gens d'un problème de santé. J'ai presque le chronomètre en main, on chronomètre le temps d'entendre « Ah mais j'ai entendu cette étude qui dit que » très rapidement les gens citent des études, mais moi le premier, hein, « Ouais, j'ai entendu une étude qui dit que » et puis évidemment quand on dit ça, moi-même je suis incapable de dire quelle était la méthodologie de cette étude voilà, mais il y a une sorte de référence un peu systématique à la recherche biomédicale pour parler du soin. Alors évidemment, c'est nécessaire évidemment pour soigner des hommes qui sont aussi des êtres de biologie, mais évidemment c'est y a un côté assez enfermant puisque le soin de l'autre dépasse largement ce que peut dire la recherche en biomédecine. Alors après, comment connaître le soin? Il y a l'anthropologie, les sciences humaines. Mais les sciences humaines, c'est un peu pareil que les sciences biomédicales. Elles ont leur méthode de pensée, leur habitude. Alors c'est souvent très centré en anthropologie. On aime bien le symbole, la symbolique. On aime bien parler des représentations où l'homme finalement est gouverné par ses représentations. Et les choses sont aussi à vouloir établir des concepts. Hein, c'est le travail d'anthropologue, c'est un peu ça. Enfin, je schématise, mais c'est-à-dire des concepts, des grands invariants. L'être humain est comme ci, comme ça. C'est aussi très enfermant. Et il y a Michel Foucault qui a beaucoup parlé de ça en disant que cette façon de raisonner uniquement, et cette ambition de toujours vouloir faire des concepts et enfermer l'homme dans des concepts, finalement, on crée de ce qu'il appelle un réseau fatal dans lequel on finit par s'éloigner complètement de ce qu'il appelle le secret intérieur de l'homme, qui est l'homme profondément. Donc l'anthropologie aussi, dans sa manière de travailler, quelque part, elle prend un peu de... Elle s'éloigne de la réalité de ce qu'est un être humain. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc après, la question, c'est alors sans... Enfin, l'idée, c'est pas de balayer tout ça. Hein. La recherche biomédicale, elle est hyper importante. L'anthropologie, le travail est très riche. Mais l'idée ici, et dans le projet de l'ethnocafé, c'est peut-être de dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie, comme une sorte de... de relance, de quelque chose d'un peu plus original pour parler de ce qu'est un être humain, de ce qu'est notre vécu à tous, et comment appréhender le réel peut-être par une autre voie. j'ai découvert alors je suis pas du tout familier de la poésie, hein, je suis pas un grand fan de la poésie. Je connais la poésie, je pense que comme tout un chacun, on a croisé des poèmes quand j'étais au lycée, et puis donc je suis pas particulièrement fan de la poésie, en tout cas je connais pas très bien. Mais dans le cours de mes études, on m'a un peu mis sur cette piste-là, notamment Patrick, je te donnerai la parole juste après. C'est toi qui m'as parlé on a fait quelques entretiens qui étaient toujours savoureux. Je t'ai rencontré deux fois pour mon travail en anthropologie, comme tu étais médecin du quartier. Et donc tu m'as dit que tu soignais comme un poète, et c'est vrai que ça m'a beaucoup interrogé. Et il y a aussi tout un mouvement en anthropologie qui part de la poétique de l'habité. C'est-à-dire, ça interroge comment l'être humain habite le monde. Quoi. Et donc, je me suis dit, là, pour le coup, on a une manière d'aborder les choses complètement nouvelle. On en voit bien l'intérêt, puisque, effectivement, quand on lit un poème, ça... Ouais, ça crée des émotions, ça parle et on sent bien que ça dit quelque chose du monde. Ça dit quelque chose du monde parce que ça développe une sorte de pensée, une pensée poétique. Certains parlent de pensée sensible, d'une pensée qui est sensible au vécu des gens. Et cette pensée sensible, qui serait la pensée poétique, ce qui serait peut-être une pensée qu'on devrait appliquer sur la question du soi, je m'arrêterai après, juste comment définir cette pensée sensible, cette pensée poétique, comment définir le fait de penser poétique au lieu de penser étude épidémiologique ou de penser anthropologie. J'ai lu un bouquin qui s'appelle... justement donner lieu au monde de la poétique de l'habiter que je vous conseille, qui est un recueil de textes sur cette question de poétique. Et donc dans cette pensée sensible, il est dit que c'est aussi une façon de lever la frontière entre le corps et l'esprit. Je pense que c'est des choses qui nous sont assez familières. En médecine, on essaye de dépasser cette notion de... si vous n'êtes pas malade organique, vous êtes malade psychiatrique et inversement. Donc on sent bien que là, il y a un truc qui atteint vite ses limites, puisqu'on ne peut pas être scindé comme ça. Et la pensée poétique, c'est aller au-delà et de dire peut-être qu'il y a aussi ce commun entre le corps et l'esprit, il y a aussi un commun entre ce que nous sommes et l'extérieur, comme quelque chose qui serait réversible entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire que... Je crois que ce que dit la poésie, c'est qu'on est aussi dans un environnement. L'être humain, on n'est pas quelqu'un comme ça, un être biologique et psychologique indépendant. On est aussi dans un environnement, on fait partie du monde. Moi, si j'essaie d'expliquer la poétique, si je change d'environnement, si je m'imagine dans ma cuisine avec mes enfants, je ne vais pas du tout parler pareil, je n'aurai pas du tout la même façon de m'exprimer, je serai quelqu'un de différent parce que l'environnement est différent. Et aussi, je crois que la pensée poétique, peut-être Patrick, tu reviendras là-dessus, mais c'est aussi se sentir en dépendance avec l'environnement, avoir un lien plus tactile avec le monde, essayer de vraiment être plus à l'écoute du monde. Il y a Maurice Merleau-Ponty, qui est un philosophe phénoménologue. La phénoménologie, moi, c'est un courant que j'aime bien. C'est l'idée pour connaître les choses, d'être au plus proche des phénomènes. C'est-à-dire, encore une fois, pas se perdre dans des concepts, mais rester au plus proche des phénomènes. Et Maurice Merleau-Ponty dit qu'on peut connaître le monde uniquement par un peu comme un aveugle palperait les choses pour les connaître. C'est-à-dire, revenir à des choses très tactiles. Donc la poétique, la pensée poétique, c'est un peu tout ça, c'est ne pas vouloir créer des concepts, mais essayer de se rapprocher au plus près de l'expérience. Alors, encore une fois, c'est difficile de mettre des mots sur des choses un peu comme ça, mais en même temps, c'est intéressant d'essayer de mettre des mots dessus. Donc il y a un bouquin qui est paru, La pensée sensible, qui est un collectif que j'ai animé, où on est quatre à avoir écrit dedans. Et donc c'est un peu comme ça qu'on essaie de faire vivre cette question de la poétique, par des rencontres, et puis par des écrits où on essaie de parler du soin de façon un peu différente, plus vers le... faisant plus part à l'expérience, au ressenti, au vécu. Et du coup, Patrick, peut-être je te laisse... je sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ça, c'est sûr que c'est un peu conceptuel, mais...
Par rapport à la poétique, ça n'a rien à voir... La poésie, ça n'a rien à voir avec la poésie traditionnelle, c'est... c'est plus un ressenti, qui...
Alors moi j'ai l'impression que...
Tout, quoi, l'esprit et le corps, c'est plutôt ça.
Alors moi j'ai l'impression que la poésie... encore une fois, c'est pas... Ici, le lieu, c'est pas de faire de la poésie. Mais j'ai l'impression que la poésie pourrait nous apprendre une façon de voir le monde, en fait. C'est un peu ça.
Donc ça quand même...
Ouais, ça a un lien, finalement, comment les poètes pourraient nous apprendre à regarder le monde d'une façon différente que par la voie scientifique ou la voie classique de l'anthropologie. Comment changer son regard pour voir différemment et du coup pour mieux, pour avoir des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Et... Ça vous parle
oui.
Thank you. donne la parole
à Patrick.
Au médecin poète.
Voilà. Alors, contrairement à toi, alors, je ne sais pas quelle est ton histoire de père, mais personnellement, je n'ai pas eu de père, ou très peu. Et donc, je rends grâce aux poètes qui ont été, quelque part, un pilier paternel. Et en premier lieu, bon, un petit peu vers 16-17 ans, il y avait Rimbaud, Verlaine, tout ça, c'était un peu romantique. Mais disons que le premier poète qui m'a vraiment marqué et enseigné, c'est Saint John Perse, clairement. Dans le titre de la conférence de ce soir, c'est nommé « La poétique du soin ». Donc tu évoques deux notions. Attends, on peut pas tenir ce bazar, non ? C'est deux notions. D'une part, la poésie, et d'autre part, le soin. La poésie, c'est particulier. La poésie, littéralement, ça veut dire la création. Ça vient d'un terme grec qui est dit poiesos, poiesis. Ça veut dire la création. Alors, les organes hématopoïétiques, c'est dans la moelle osseuse, ce sont, entre autres, ce sont des organes qui fabriquent les globules rouges, les globules blancs, donc ce qui est nécessaire à la vie biologique pour nous. Donc, c'est toujours créé. Donc, la poésie, c'est l'expression par des mots, c'est un art d'abord, qui exprime par des mots des choses innommables. Innommables, non pas parce que c'est horrible, mais c'est parce que c'est proche de l'indicible. C'est-à-dire qu'en clair, la poésie est un art qui utilise le mot, le verbe, propre à l'être humain, qui voudrait décrire une réalité, comme se confronter à la réalité, comme tu dis tout à l'heure, mais qui, en fait, face au mystère, reste forcément asymptotique à cette réalité. Mais le génie de la poésie, par les mots, par la musicalité, par le rythme, est de nous mettre dans un état de compréhension ou d'appréhension ou de sensation du mystère en utilisant des choses non mystérieuses, qui sont les mots, qui sont donc rationnels, soumis à une grammaire, une signification, etc. Donc, la poésie, c'est un art, un des arts majeurs, hein, je crois qu'il y en avait sept, comme il y en avait des arts, cinq ou sept, qui va décrire, qui va nous mettre dans un état, proche d'un état de ce qu'on appelle le sentiment océanique, c'est-à-dire un état flottant entre la réalité et le rêve, qui nous permet d'appréhender quelque chose de l'ordre du mystère, et qui touche notre vie fondamentalement, essentiellement. Voilà pour la partie poésie. Donc ça fait référence au mystère et à la chose irrationnelle. Pour le soin. Le soin, je suis médecin, et donc j'ai fait des études dites scientifiques. Pour passer la médecine, on fait le bac S, on apprend les mathématiques, la chimie, la physique, etc. Or, la médecine fait partie de ce qu'on appelle les sciences humaines. Et les sciences humaines, il y a une partie rationnelle et une partie irrationnelle, on va dire, mystérieuse, on peut dire plein de mots. Mais en tout cas, ce n'est pas rationnel. Le soin, principalement, pour un médecin ou un soignant au sens large, c'est comment traiter la douleur de quelqu'un qui vient vous voir en disant « j'ai mal, peux-tu m'aider ?» Fondamentalement, c'est ça. Tu peux reprendre tout de suite s'il y a quelque chose qui te déplaît dans la construction de cette parole. Pour moi, c'est ça. Et un des premiers rôles du médecin, c'est d'abord l'élan du soignant. C'est-à-dire que quand quelqu'un il va dire « j'ai mal, ça saigne », t'en as qui vont faire « ah, c'est dégueulasse », qui vont partir en courant, et puis t'en as d'autres qui vont arriver en disant « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Ça, c'est le mouvement fondamental du soignant, c'est l'envie de rendre service, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas d'aider quelqu'un qui ne va pas. Et ça, j'ai vu, il y a quelque chose de l'ordre de la nature, c'est un peu inexplicable. Il y a des gens qu'ils ont fait pour aider, puis d'autres qu'ils n'ont pas fait pour ça, parce que ça les touche sur le plan du sang, de tout ça. Et donc, le soin, c'est principalement traiter la douleur. Et la douleur, la première des choses, c'est qu'il faut lui donner sens. T'as mal pourquoi ? Parce que t'as une pancréatite, parce que t'as une phlébite, parce que ton chéri t'a quitté, Parce que. Donc, une des premières choses au niveau de la douleur, c'est de donner sens. Il y a un livre remarquable d'un anthropologue qui s'appelle, son nom va me revenir, mais ça s'appelle Anthropologie de la douleur, et c'est Le Breton, David Le Breton, bravo. C'est un livre très simple, facile à lire, mais qui est pour moi essentiel dans la question de donner sens. Donc, poésie, quelque chose d'artistique qui fait référence au mystère. Le soin, c'est quelque chose d'à la fois rationnel et d'à la fois particulier, que je vais développer. Je dis toujours à mes patients, le corps humain, c'est une mécanique, comme votre voiture, qui est soumise à des émotions. Donc il y a l'aspect mécanique. Moi, mon pain blanc, ça a été l'ostéopathie depuis longtemps, donc je reboote, je remets les gens d'aplomb. Donc c'est mécanique vertébrale, mécanique ostéo-articulaire, etc. Alors là, c'est rationnel. Vous avez l'anatomie, vous avez la physiologie, vous avez tout ça. Ça, c'est très rationnel. Les émotions, alors ça devient un peu plus compliqué. Bon, je vais aller assez vite parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui est imparti. Mais en gros, ce que je dirais, les émotions, c'est la porte de l'âme. Tout à l'heure, tu as fait la dichotomie, vieille comme le monde, entre le corps et l'esprit. Mais pour un médecin rationnel, qu'est-ce que l'esprit ? T'as une définition de l'esprit ? T'en as pas.
J'ai lu ton livre.
Quoi ?
François Cheng, je pouvais te répondre.
Il n'y a pas de définition d'esprit. Il ne faut pas confondre l'esprit avec la pensée. La pensée, c'est une élaboration neuronale. L'esprit, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on émet. Quel rapport ça a avec la philosophie, avec la spiritualité, avec la neurologie ? Personne n'est capable de répondre à cette question. Les anciens Grecs, quand on parlait de l'esprit, c'était pneuma. Tu dois savoir ça mieux que moi. Pneuma, c'était le souffle. Et donc, c'est l'esprit. L'âme, qu'est-ce que c'est l'âme ? En latin, l'âme, c'est anima, ce qui anime. Quelle est la définition de l'âme ? Actuellement, il n'y en a pas. Or, tous les scientifiques qu'on utilise, qu'on interroge et tout ça, ils vont parler de l'esprit et de l'âme. Il n'y en a pas un qui est capable de définir ce que c'est, ni où ça se situe. Ça, c'est un sacré mystère, parce qu'on travaille tous les jours avec ça. Quand tu vas voir quelqu'un qui te dit « j'ai mal pour ci, pour ça, etc. » Et quand tu dis, parce que je me permets ça maintenant, j'ai toujours été très loyal et très rigoureux dans ma formation scientifique. Mais depuis que je travaille avec les chamans et que je me donnais du temps pour digérer tout ce que j'ai appris, maintenant je n'ai plus aucune gêne, à aucun niveau, pour parler de l'âme. Je peux dire à un patient, mais ce qui s'est passé là, ça a abîmé votre âme. Votre âme a été abîmée. Et on va essayer de réparer ça. Eh bien, curieusement, ça ne veut rien dire en termes scientifiques et rationnels, mais quand on leur parle comme ça, ça veut dire quelque chose. Mon âme a été blessée et j'ai besoin d'être réparée. Et les gens, sans comprendre ce que ça veut dire, eh bien, ils comprennent ce que ça veut dire. C'est ça qui est curieux. Donc, la poésie, l'art, le mystère, le soin, une partie rationnelle et une partie, on va dire, irrationnelle. Les émotions. Pour la psychologue.
Mystérieuse, du coup.
Mystérieuse. Alors, un des premiers, en tout cas dans mes études, qui a commencé de parler de la psychologie, c'est Freud. C'est le premier qui a parlé, c'est pas tout à fait le premier, mais on va faire simple. C'est lui qui a émis l'idée d'inconscient. L'inconscient, c'est un domaine qui est en deçà, au-delà, ou je ne sais pas comment le nommer, du conscient, et qui, l'air de rien, dirige le conscient. Les preuves de cette hypothèse de travail comme quoi l'inconscient existe, c'est montré par les rêves, les cauchemars, les actes manqués, les lapsus. C'est avec ça qu'il fait son fonds de commerce. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe d'un différent, d'un décalage, d'une opposition entre ce que je veux et ce que ça veut 2 mois. Et donc, ça peut donner des névroses. Et donc, la question, c'est de dire, bah, finalement, qu'est-ce que exprime ton inconscient ? Alors, on va analyser les rêves, etc., les actes manqués, les lapsus, et on va faire en sorte que le conscient colle relativement à ce que souhaite l'inconscient. Mais c'est une théorie, et on ne sait pas ce que c'est que l'inconscient, et on ne sait pas où ça se situe. Bon. Donc, le soin, c'est apporter un soulagement, une douleur, au moins, et si possible, pour que ça soit une vraie guérison, lui donner sens. C'est ça, la douleur, ça sert à ça. Donc la douleur, c'est sécrété par l'organisme, un peu comme la voiture qui va mettre un voyant rouge en disant « Attention, t'as plus d'huile dans ton moteur, et si tu fais pas attention au voyant rouge, par exemple, tu donnes des antidouleurs de façon inconsidérée, ou d'autres produits, eh bien, tu perds une alarme qui va dire « Attention, tu vas t'abîmer davantage, voire tu peux mourir. » Donc la question de la douleur, c'est de lui donner sens, et sûrement pas de la supprimer comme ça, n'importe
donner
comment.
Donner sens et l'accepter aussi, ou c'est deux choses différentes ?
Non, ça, le fait de l'accepter, c'est un autre processus qui peut permettre de donner sens. Ça peut marcher dans un sens ou dans l'autre du reste. C'est vrai. Après, il faut savoir que quand on commence à travailler comme ça, on travaille dans quelque chose qui a du sens et qui n'a pas de sens. Alors ça, c'est très bizarre, parce que nous, on fonctionne sur un mode binaire.
Vous avez le droit d'interrompre, s'il
vous plaît. Vous avez le droit, si ça va trop vite, si vous n'êtes pas d'accord. Mais laissez-moi un peu avancer, après éventuellement poser les questions un peu, parce que je voudrais avancer un peu dans ça. Sinon, je vous préviens, j'ai jusqu'à 5h du matin, j'adore ça. Alors, voilà, je vais faire des petits breaks comme ça, pour parler un peu de poésie quand même, pour lui rendre hommage. Parce que...
Je crois que vous y arrivez avec des mots quand même, si on repère les mots, comment dirais-je, symboliques, on arrive à comprendre l'histoire. C'est-à-dire qu'entre autres, le mot de mystère, de sens, de lieu. Et en fait, dans tout ce que vous expliquez avec ces termes-là, je crois qu'on comprend où vous voulez en venir, si je ne me trompe pas. Parce qu'en fait, on retrouve...
Allez-y.
Parce que le mot de mystère que vous avez utilisé au début pour la poésie,
ouais,
en fin de compte, il se retrouve dans tout votre
ben oui,
développement.
Alors, deuxièmement, on continue.
Bon, on a compris.
Bon, voilà. Vous ne savez pas où je vais encore.
Non.
C'est un peu présomptueux. Attendez, du reste, je vais nulle part. Je ne fais que poser des questions. Je n'ai que des questions. Donc, il y a un côté le soignant, on va dire médecin, infirmière, cousin, hein, et la poésie, puisque c'est le titre de la chose. Dans le soin, il y a des choses rationnelles et il y a des choses irrationnelles. On va dire, il y a des choses connues, explicables, et des choses inconnues, mystérieuses. Personnellement, j'ai aucun problème pour travailler avec le mystère. Ça ne me dérange pas. Il y a des choses que je ne comprends pas, ça ne me dérange pas, je les accepte. Il y a plein de choses du reste qu'on ne connaît pas, qu'on a été obligé d'accepter et qui sont proprement inacceptables. Et tous les jours. Donc, Jean a mis par ce titre-là, la poétique du soin, deux choses. Le soin, c'est quelque chose d'humain, de la relation d'humain à humain, ou éventuellement de soi à soi. Et la poésie, qui est un des arts majeurs, qui est très très ancien dans l'utilisation humaine des mots, même au-delà de ce qu'on en connaît, par les livres. Et la plupart du temps, quand les gens se plaignent d'une douleur, ils utilisent des mots, des signes. Donc, se trouve quelque chose de particulier pour la profession de médecin, contrairement à un ingénieur électronique, un ingénieur informatique, c'est que nous, on nous vend une salade rationaliste, chimique, physique, dès le début dans nos études, et en pratique, on se rend compte qu'on est quand même assez loin de tout ça. Pour faire simple, dans mon immeuble où j'habite au bord du Rhône, il y avait un type, le docteur Donny, qui était un des rares internistes, c'est-à-dire interne des hôpitaux de Lyon, qui a choisi de faire de la médecine générale. Et tiens-toi bien, au troisième étage d'un putain d'immeuble où il y a les marches, c'est haut comme ça, tu vois. Et il avait toute sa clientèle jusqu'à la fin. Les gens allaient à pied, il avait beaucoup des gens des bonnes sœurs, je les croisais dans le truc, à l'époque il n'y avait pas d'ascenseur. Les gens montaient au troisième à pied pour aller voir ce médecin. Et je me rappelle, moi je bossais ma première année à l'époque. Et je le croisais de temps en temps, le docteur Denis, il était vraiment toujours très occupé tout ça. Et il disait, ah ben Patrick, tu peux pas savoir, il avait la voix cassée, un peu comme ça. Il disait, tu peux pas savoir, on voit que des fonctionnels. Qu'est-ce que ça veut dire dans le langage médical, on voit que des fonctionnels? Ça veut dire que quelqu'un qui va se plaindre de quelque chose, dans le rationaliste, on va se dire, eh ben, t'as mal au bide parce que t'as un calcul à la vésicule, ou t'as un polype dans l'intestin, ou je ne sais quoi d'autre. Mais la plupart du temps, quand on fait les examens pour les douleurs des gens, il y a zéro résultat. Il n'y a rien. On ne trouve rien. En clair, la démarche scientifique rationaliste ne peut pas expliquer la douleur. C'est ça qu'on appelle fonctionnel. C'est-à-dire la fonction est abîmée et non pas l'organe. Et ça, c'est... Vous interrogez n'importe quel radiologue. Les spécialistes en bout de chaîne, c'est différent. Parce que lui, quand il voit quelqu'un, c'est déjà hyper trié. Et quand il voit quelqu'un en néphrologie, il y a déjà, la plupart du temps, une pathologie au rein qui est installée. Mais avant, c'est différent. Et donc, tu interroges les radiologues, les biologistes, tout ce que tu veux. Oh, je ne connais pas, tu le sais peut-être mieux que moi, tu as fait de l'anthropologie de la santé, mais à mon avis, au moins 90% des examens qui sont demandés reviennent négatifs. Il n'y a rien de pathologique. À peu près le pourcentage. Donc, la question c'est, de quoi vous plaignez-vous? Et le problème pour le médecin, c'est de dire, comment ça se fait que les gens se plaignent de ci, de ça? Comment on va faire? Alors, quand j'ai commencé mon travail, j'ai eu la chance d'être formé par un rebouteux. Donc, les gens avaient des lombalgies, des cervicalgies, des blocages d'épaule, etc. Là, c'était assez magique et mécanique. C'est-à-dire que les médecins ne connaissaient pas, puisqu'ils n'ont pas été formés du tout là-dessus. Et j'ai eu ma patientèle qui s'est faite avec ça. Donc, quelqu'un qui avait le cou bloqué, clac, tu te débloques, tac, tac, un coup de bloqué, tu te débloques. C'est proprement magique. Et là, c'était bien. Mais après, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai fait beaucoup, je t'en avais parlé, beaucoup de groupes balines. Les groupes balines, c'est une formation médicale issue de la psychologie médicale où on se réunit les soignants, infirmières, kinés, médecins, cardiologues, néphrologues, tout ce que tu veux, sous l'égide d'un, en général, de deux psychanalystes. Et on parle du soin. Alors là, c'était, j'avais 25-30 ans, à peu près, quand ça commence. Oui, un peu plus, 30-35 ans. Et on parle des patients qui nous posent problème. C'est-à-dire, il y a un patient qui vient, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il a, on n'y arrive pas. Ou tel type de relation particulière. Et là, j'ai compris que la plupart du temps, quand j'arrivais pas ou qu'il y avait quelque chose de particulier dans la relation avec le patient et moi, ça venait de moi. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs de moi qui n'avaient pas été résolus et l'autre faisait résonance à ça. Et réveillait en moi quelque chose qui n'était pas clair. Et donc j'ai appris beaucoup, j'ai dû faire à peu près 5 à 10 ans de Bali. Ça, c'était passionnant. Mais je n'avais pas encore mon content. C'est là que j'ai commencé à 42 ans d'aller voir les chamans, parce que je voulais comprendre autrement et ma vie et celle de mes patients. Donc le mystère de l'être humain. Chez les chamans, puisque vous avez parlé, moi j'ai pensé parler plutôt de la poésie, et en fait, bon, pour moi le chamanisme c'est très proche de la poésie. Chez les chamans, d'abord c'est un travail physique. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de diètes, beaucoup d'isolement en forêt. On prend des plantes pour se nettoyer, donc par le bas, par le haut, on vomit beaucoup. Et on passe beaucoup de temps seul, soit dans la forêt, soit dans une cabane. Et on est Le mystère d'être humain dans sa vie, qui est au milieu de cette nature, parfois généreuse, parfois hostile, parfois inquiétante. Et on passe du temps autour de tout ça. Mais c'est quelque chose, après, dans le chamanisme amazonien, on utilise des plantes psychotropes qui donnent des visions, c'est un peu particulier. Donc j'ai été très prudent dans l'utilisation de ces produits-là. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les choses. Donc ça, pour moi, ça a pris beaucoup de temps de maturation, en quelque sorte, pour savoir où je vais par rapport à tout ça. Bon, voilà. La question du sens et la question des explications. Pourquoi j'aime la poésie ? D'abord parce que ça touche mon cœur, ça touche mes émotions. C'est comme un chant. Je lis une poésie, ça va me transporter, ça va me faire pleurer, ça va me réconforter, ça va avoir un effet sur ma personne extrêmement instructif à de nombreux égards, et notamment en regard des émotions. Alors, se pose la question dans le travail du médecin scientifique, finalement, la part, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la part du connu, du rationnel, est finalement très petite, et de l'individuel, en regard de ce que j'ai dit sur ma situation hors convention, est très petite par rapport à la part mystérieuse, et la part où on a l'impression qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on nous fait croire que ça marche tout comme ça, mais en fait les gens t'essaient de faire rentrer dans les cases, mais ça ne rentre pas dans les cases. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'opposition entre l'esprit scientifique rationnel et alors je reviens à ta remarque, à la poésie, c'est-à-dire la mystérieuse création. Donc je reviens au mystère. Je vais faire un petit break et je vais lire 2-3 lignes de Saint John Peirce dans l'allocution au prix Nobel de littérature qu'il a reçu en 61. Vous allez comprendre tout de suite. Il a compté énormément pour moi, ce personnage. La poésie n'est pas souvent à l'honneur. C'est que la dissociation semble s'accroître entre l'œuvre poétique et l'activité d'une société soumise aux servitudes matérielles. Écart accepté, non recherché par le poète, et qui serait le même pour le savant sans les applications pratiques de la science. Mais du savant comme du poète, c'est la pensée désintéressée, et je te remercie parce que tu es dans cette ligne-là, que l'on entend honorer ici, qu'ici du moins, ils ne soient plus considérés comme des frères ennemis, le poète et le savant. Car l'interrogation est la même, qu'ils tiennent sur un même abîme, et seul leur mode d'investigation diffère. Ça, c'est fondamental. Alors, je vais parler du mystère. Tu me reprendras le philosophe si je dis des conneries. Dans la démarche scientifique,
on va être le garant de l'orthodoxie.
Voilà, on va dire, je vais prendre ta belle-mère
en otage,
et on va dire que je suis amoureux de ta belle-mère. Mais cette femme, je l'aime, elle est pour moi unique au monde. Mais je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui fait scientifiquement que c'est cette femme-là que j'aime et pas une autre. Mon art, par exemple. Excuse-moi, c'est pas qu'un truc de truc. Voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est elle que j'aime et c'est pas une autre? En tant que scientifique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te prendre en photo, je vais te peser, je vais te mesurer, etc. Et après, je vais dire, quand même, qu'est-ce qui fait que, par exemple, sa cervelle, elle est différente d'une autre? Où ça va mener ça? Je vais te découper en crâne, je vais prendre ta cervelle et je vais étudier ta cervelle. Et puis après, je vais dire, qu'est-ce qui fait que son cœur pour lequel je bats tant est différent du nôtre ? Je vais enlever ton cœur, etc. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe ? L'analyse scientifique détruit l'objet d'étude. Là où j'attends les remarques. C'est l'attitude scientifique, l'analyse scientifique détruit l'objet d'étude. Autre point de vue. Ce que j'ai appris avec les chamans. Le mystère. Pour un scientifique, un mystère, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore expliqué, mais qu'on expliquera bientôt, quand les connaissances auront avancé. Pour moi, d'une part, bien évidemment, j'ai une vision rationnelle et scientifique des choses de la vie, mais j'ai aussi une vision spirituelle, donc j'ai introduit une autre notion, qui est un mystère, c'est peut-être quelque chose que je vais découvrir, mais c'est aussi quelque chose qui peut être secret, qui peut être sacré, et je renonce à chercher à dévoiler ce mystère. Parce que je sais quelque part que si je cherche à le dévoiler, ce mystère, mais je vais faire comme notre ami, je vais la tuer, la détruire, en voulant trop comprendre comment ça fonctionne. Il y a donc l'introduction dans cette deuxième pan des choses mystérieuses, un respect sacré, et sacré ça veut dire ça sert coupe, c'est-à-dire qu'on ne touche pas, comme un interdit. C'est quand même curieux de voir que chez l'être humain, le seul interdit consensuel dans le monde entier, tu me repenses si je dis une connerie, c'est l'interdit de l'inceste. Tu ne baisses pas ta mère. D'accord ? Tu ne baisses pas ton père non plus. C'est la seule chose, c'est la seule chose consensuelle comme interdit. Tout le reste dans la démarche scientifique, il n'y a rien d'interdit. Rien. Tout est possible.
L'anthropophagie aussi.
L'anthropophagie.
Non, ça existe dans les
textes. Ça existe.
Ça existe, mais c'est. Alors, oui, alors là, c'est un très bon exemple. Quand j'étais en première année de médecine, j'avais 19-20 ans, il s'est passé la chute de l'avion dans la cordillère des Andes avec l'équipe d'Argentine. Et j'ai été passionné par cette histoire-là, mais réellement passionné. J'ai même lu après le bouquin qui s'appelait Les survivants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les mecs, on ne les retrouve pas. C'était Noël. Tout le monde pensait qu'il allait y avoir un miracle et qu'on allait le retrouver. Non, pas de peau, on ne les retrouve pas. Noël se passe, janvier arrive, mi-janvier à peu près, et d'un coup, miracle, il y en a un qui est descendu de sa montagne, on en a retrouvé je ne sais plus combien, je crois le tiers de l'avion. Et bravo, nanana, bon, puis au bout d'un moment, les mecs, ils posent des questions. Une fois qu'ils ont bouffé la paille du siège, et tout ça, mais dis donc, comment t'as fait pour rester vivant pendant 3 mois là-bas à 5000 mètres, comme ça, il y a de la neige et tout. Ah ben voilà. Et ils ont expliqué les choses. Donc en fait, ils sont becquetés entre eux. Et heureusement, il y avait des étudiants en médecine, et il semblerait que ils avaient déjà appris que le plus important, enfin je vous dis ça si ça nous arrive, le plus important à bouffer en premier, c'est le foie. Parce que t'as des vitamines, t'as plein de trucs dedans, dans le foie. Et après, ce qu'ils ont, ils ont coupé les muscles, la viande, et ils les ont fait boucaner sur les ailes d'avion, et ils ont becqueté ça. Et ça leur donnait un peu la chiasse, mais en gros, ils s'en sont sortis comme ça. Et le pape a émis une bulle spéciale, parce qu'effectivement, l'anthropophagie est interdite dans le cadre chrétien-catholique, et là, il a émis une bulle spéciale pour absoudre et permettre à ces jeunes rugbyman de pouvoir retourner au paradis quand ils seraient morts parce que il fallait qu'ils se débrouillent. D'accord ? Mais l'anthropophagie, c'est aussi interdit. Mais oui. Alors après, il y en a sûrement d'autres. Moi, j'ai pas fait une liste exhaustive de ces trucs-là.
Il y en a trois. Il y a le meurtre individuel aussi.
Quoi le meurtre individuel ?
Décider soi-même de tuer quelqu'un.
Ah oui.
Grands interdits.
Ah oui, d'accord.
C'est quoi ? Je sais qu'il y a trois grands tabous. C'est l'anthropophagie, le meurtre individuel et
l'inceste.
C'est décider soi de tuer quelqu'un.
Quand tu fais la guerre, tu es un soldat, tu peux zigouiller 100 000 personnes, personne ne va t'accuser de quoi que ce soit. Tandis que si tu tues ton voisin parce qu'il te fait chier toute la nuit, et bien là, tu vas en taule direct.
La guillotine. Non,
c'est voilà, d'accord. Mais en gros, il y a quand même.
Ça, c'est bien des gens qui ont dû baiser leur mère.
Oui, ah bah, il y a toutes les histoires d'accouplements royaux, etc. Enfin, en fait, il y a beaucoup d'exceptions.
Oui, chez les Égyptiens, il y a des exceptions. Mais ouais, globalement, pour sur les 10 milliards, combien on est 8 milliards d'humains sur Terre actuellement, c'est clair. Oui, c'était, parce qu'ils étaient des demi-dieux en Égypte.
Oui, mais en fait, il y a beaucoup d'exceptions à ces règles.
Voilà.
Des mystères.
Si on lit les premiers textes de Lévi-Strauss, les relations frères, sœurs, cousins, cousines, etc., c'est, tant que ça ne donne pas lieu à des reproductions de génération en génération, c'est assez commun. Enfin.
C'est commun, mais en clair, on ne sait pas. Lévi-Strauss avait dit, ce qui différencie entre autres l'homme de l'animal, c'est ça.
Oui,
à mon avis, c'est en train d'évoluer tout ça avec les connaissances d'éthologie. En règle générale, semble-t-il, chez l'animal, c'est qu'il y a un évitement d'inceste chez l'animal sauvage. Il y a un évitement d'inceste.
Oui, mais chez les Lévi-Strauss, si vous voulez, c'est surtout que c'est une règle symbolique qui promeut l'exogamie. C'est-à-dire que c'est surtout une promotion de la nécessité d'aller se marier en dehors de son groupe social. Donc en fait, la prohibition d'inceste, c'est le versant négatif d'une injonction à maintenir la dynamique des groupes entre eux.
J'ai entendu.
Par les alliances, etc.
Ouais, c'est pas de sujet, mais on pourrait se demander aussi si ces règles d'exogamie n'ont pas été faites pour éviter l'inceste, justement, et donc le nectar génétique. Mais bon, c'est pas de sujet.
Préserver
l'espèce. C'est pas de sujet. Mais
tout le monde se met à tuer tout le monde, il n'y aura plus d'espèce.
Voilà.
Tout le monde, il n'y aura plus d'espèce.
Donc en gros.
Enfin, on va te couper.
Je continue. Non, parce que c'est vrai que ça peut aller très loin, en plein de domaines différents. Donc en gros, ça j'ai appris ça avec les chamans, et les chamans, c'est là que j'ai élaboré cette pensée. C'est que personnellement, ça ne me dérange pas de travailler avec le mystère, sans chercher à le comprendre. Ça, c'est pas notre habitude en médecine, pas du tout. En clair, je vais dire les choses comme ça. L'initiation chamanique, c'est apprendre un chemin avec des portes qui donnent sur le monde invisible, qui permet de côtoyer le mystère, de fréquenter le mystère, et d'en tirer enseignement sans qu'il soit en aucune façon touché dans son intégrité.
Oui, parce qu'on n'ira pas le dévoiler jusqu'au bout. C'est ça que vous voulez dire ?
On ne peut pas le dévoiler par définition. Mais par contre, il ne faut pas.
On le tuerait.
Il disparaîtrait. Comme l'exemple que j'ai pris avec. Comment c'est ton prénom ?
Christine.
Avec Christine.
Tout à l'heure. C'est
voilà.
Le cas d'amoureux. Hein.
Et donc, l'initiation chamanique, mais pas que, c'est une façon de tirer enseignement de quelque chose de mystérieux parce qu'il y a des chemins qui sont montrés pour être en relation avec ce mystère sans pouvoir ni le définir ni le découper ni rien que ce soit d'autre, c'est-à-dire c'est une fréquentation, c'est très curieux. Là aussi c'est comme la poésie par rapport au mystère, c'est asymptotique, c'est-à-dire que ça tend vers mais ça touche pas, par contre ça enseigne. Voilà.
Tu m'as dit que quand tu voyais un patient et que tu faisais une cure chamanique avec lui, tu ne donnais pas de conseils ou de, tu n'essayais pas de trouver une solution, mais tu dis à la personne, bah là ce que vous allez vivre, c'est vous qui le vivez et moi presque j'interviens pas.
C'est absolument ça.
C'est un peu ce que tu dis en ce moment.
Alors, dans le travail chamanique, alors si tu veux, je développe ça un tout petit peu si vous voulez. C'est très rapide.
Ouais.
En gros, ce que j'ai reçu comme un enseignement, c'est un protocole de rituel. Donc, on plante un décor sacré, je chante des chants que j'ai reçus, et je souffle des parfums. C'est pas moi qui ai inventé ça. Par contre, la personne qui ou les personnes qui ont mis au point ce protocole ont été inspirés de la même façon qu'un poète est inspiré pour recevoir son chant ou sa poésie. Il y a quelque chose qui vient du mystère, encore une fois, excuse-moi, mais c'est le mystère de la création, ça rejoint encore... La poésie, c'est le mystère de la création, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un être qui reçoit quelque chose, semble-t-il, c'est toujours exprimé comme ça. Il y a beaucoup d'artistes, peintres et tout ça, ils disent la même chose. On a l'impression que c'est pas nous qui faisons ça, ça se fait à travers nous, malgré nous. C'est comme ça que c'est souvent c'est dit. Et donc, le rituel chamanique, je me sers de quelque chose qui a été inspiré par d'autres, qui m'a été transmis, et la personne arrive avec son mystère. Alors, je peux vous citer plein d'exemples cliniques de choses, des endométrioses, des stérilités, plein de choses bizarres. Et qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas une posture de psychologie, c'est-à-dire d'expliquer papa, maman, le machin, le truc, etc. Pas du tout. Je suis pas du tout à cet endroit-là. Je suis à l'endroit du mystère. Je dis aux gens, tu vois, tu as à la fois le problème et la solution. Tu as déjà fait un travail en psychologie, tu as déjà fait ci, tu as déjà fait ça, un truc comme ça. Moi, je me situe pas du tout à cet endroit-là. Je pose deux, trois questions quand même pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, l'idée, c'est... La personne, avec sa question, son doute, son interrogation, sa maladie, qu'on ne sait pas définir, elle est dans le mystère. Pourquoi ça m'arrive ça? J'ai beaucoup de travail, etc. Donc en fait, je vais mettre en relation, en résonance, deux mystères. Celui que j'ai reçu, que je n'ai pas inventé, et la personne avec son chemin de vie. Et j'explique, je dis, ben écoutez, voilà, vous êtes là-dedans, vous êtes protégé. Vous êtes vous face au mystère de votre vie et de votre chemin de vie. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Les gens savent. Alors évidemment, c'est quand même pas... Si là, en ce moment, j'ai une petite, elle a 18-20 ans, tu vois. En général, c'est des gens qui ont déjà une certaine réflexion, une certaine maturité. Mais c'est la première qui est si jeune. Je parle pas pour les rituels de tabac, ça je peux prendre des gens plus jeunes. Mais pour d'autres types de rituels, c'est comme ça. Et là, si tu veux, tu as quelque chose qui est mystérieux, et moi j'ai pas d'explication, ou tu as une mise en résonance entre finalement deux mystères. Il y a quelque chose de l'ordre de l'alchimie qui fait que la personne, elle va pouvoir trouver son chemin. Et troisième chose, encore vis-à-vis de la médecine, tu as quelqu'un, tu arrives avec ton coude bloqué, plop, je te débloque, je peux expliquer pourquoi t'as plus mal, avant t'avais mal, et nanana, et nanana. Tandis que là, j'accepte aussi de ne pas donner d'explication à ce qui se passe. Je ne sais pas. Je promets rien, bien évidemment, et je ne sais pas ce qui se passe. J'accepte ça. Voilà, les relations du mystère.
Donc, moi je trouve que c'est très proche de la psychologie, en tout cas de la manière dont je peux la pratiquer, parce que ce mystère, effectivement, à partir du moment où on rencontre l'humain, c'est déjà un mystère. Et aussi, en fait, je me dis que ce que vous décrivez là, c'est en fin de compte permettre à la personne de trouver un compromis entre son corps et sa psyché, sans atteindre le mystère, c'est-à-dire sans se tuer, mais de trouver un compromis, un moyen de vivre mieux, en se trouvant un équilibre entre son corps et son esprit. Du coup, j'ai peur de l'utiliser parce que je ne sais pas si j'ai bien compris le mot esprit, mais comme moi j'aurais tendance à le dire, c'est une manière de trouver un compromis, une manière de vivre mieux, mais sans atteindre le mystère que moi je définirais du coup comme l'inconscient. Enfin moi je le comprends comme ça avec mes... Et que du coup pour lui permettre à mieux vivre. Enfin voilà, je l'entends un peu comme ça. Je sais pas du coup si je suis proche de ce que vous êtes en train de...
Oui.
Ouais. Ben, voilà. Non mais c'est, ça me fait beaucoup justement écho à la psycho, en tout cas comme j'ai dit, à la manière dont je la pratique, parce qu'on part effectivement de ce postulat où on ne sait pas, et que justement c'est au patient lui-même de à travers l'orientation, enfin l'aide qu'on peut lui apporter, mais de se comprendre, de mais à aucun moment de partir de l'idée qu'on sait quoi. Justement c'est partir du fait que on ne sait pas. On se positionne en personne qui ne sait pas dans un premier temps. Donc ça me fait écho hein, quand même beaucoup à ce que...
Ah mais je suis ravi. Oui. Bien.
Et puis en anthropologie, il y a tout un mouvement, enfin, notamment des... justement en phénoménologie ou l'idée avec Edmond Husserl, tout ça, c'est de dire qu'il faut... L'objectif n'est pas d'expliquer les choses, mais de, ouais. de tenter de comprendre. Et peut-être ça rejoint un peu ce que
oui. tu dis. Après, c'est satisfaisant quand même dans la reproductibilité des choses, d'intelligérer les choses et de façon à pouvoir les transmettre et les reproduire. Mmh. Moi, il y a des choses, ça se passe comme ça, mais pas vraiment. Il faut que soi-même, progression. Quand tu vas voir un patient, si tu as nulle idée de ce qu'il a vécu, si tu as nulle idée, je sais pas, des cultures, moi j'ai habité à la Duchère quand j'avais 8 ans, tu avais tous les mecs qui débarroulaient d'Algérie, les pieds noirs, les juifs, les arabes et tout ça, on était tous mélangés, etc. Moi je sais, j'ai vécu ça. Quand j'ai étudié en anthropologie les différentes religions, le corps en islam, le corps chez les chrétiens, le corps chez les laïcs, ça, c'est un monde, mais totalement différent. C'est pour ça que j'ai aimé les études d'anthropologie. C'est que beaucoup, et puis les étudiants d'anthropologie aussi, c'est des gens curieux, c'est des gens sans tabou, c'est des gens qui sont, qui ont envie de rencontrer l'autre. Si j'ai vu, tiens, l'autre jour, au cabinet, j'ai vu un mec, j'en avais jamais vu de ma vie, un assyro-chaldéen. T'as déjà vu un assyro-chaldéen dans ta vie?
Oui.
T'en as vu? Ben moi j'en avais jamais vu. C'est donc des chrétiens d'Orient et ils débarroulaient d'Irak. Ce pauvre gars, ses parents, lui il doit avoir 6 mois, il débaroule à Vonvelin. Donc les assyro-chaldéens, c'est comme les orthodoxes en plus dur. Hein. C'est vachement recta.
Raccourci.
Et lui, il se retrouve. Non, mais tout à fait raccourci. Et lui, il se retrouve à l'école avec les petits robeux de Vonvelin. Donc d'un côté, il arrive d'Irak, il y a déjà tout un truc. Après, il est assyro-chaldéen, donc avec des règles strictes. Et avec les petits robeux qui sont musulmans, pour certains, pas d'autres. Et à 7 ans, le mec, il a pété un câble. Parce qu'il était à l'école, il était complètement déboussolé de ce qu'il entendait, de ce qu'il voyait. Quand il rentrait chez lui, pareil. Et donc, il m'a dit, à 7 ans, j'ai l'impression que je me suis dédoublé, comme un processus schizophrénique. Je me suis éloigné de moi. Et il était toujours en distance par rapport à lui-même. Pas en opposition, mais en distance. Tu vois, c'est différent, oui. En même temps que j'en parle. C'est-à-dire qu'il souffrait tellement, il était tellement incompris partout, qu'il avait nulle part sa place, et sa place, elle était toujours ailleurs. Mmh. Et un type charmant, 26-27 ans, eh bien, je vais lui faire des rituels germaniques. Parce que avant, je vois les gens, je discute avec eux pour voir si c'est opportun ou pas de faire la chose. Donc voilà. Alors,
est-ce que quelqu'un veut de la bière?
On va repasser le discours.
Qui veut de la bière?
T'as
rien resté
là?
J'ai donné envie c'est à ceux qui nous écoutent. Tu veux en dire bien?
Non, ça va.
Non, mais... Non, mais du coup j'avais une question, c'est pour
ça que je... Merci.
Après moi quand la machine elle s'arrête,
N'hésitez pas à vous resservir si tu veux.
Je vais...
Moi j'ai quelque chose à dire pendant que tu y penses.
Vas-y.
Parce qu'après ça, ma pensée va repartir. Entre ce que tu as dit toi et puis ce que vous avez dit, en tant que psychologue, et dans le soin, c'est quand même une rencontre entre deux personnes. Et la poésie aussi, c'est une rencontre. Il y a une personne qui rencontre un poème. Et je pense qu'en tant que thérapeute, ça se passe beaucoup quand même d'inconscient à inconscient. Alors que là, il me semble que Patrick, toi tu parles d'autre chose. Hein. On t'a transmis des rituels. Hein. Donc ça se passe pas tout à fait au même niveau que d'inconscient à inconscient, à mon avis. Hein. Parce que les rituels, bah, tu vas peut-être pouvoir mieux mettre les mots que moi, mais ça touche la personne à un autre niveau. À un niveau, bon, alors c'est là où, comment définir l'inconscient, l'âme, etc.
D'accord.
Mais je crois qu'on ne peut pas tout à fait dire que c'est exactement pareil, en tout cas pour moi.
Non,
hein?
Non.
Parce que moi, je reçois des gens en thérapie. Bon, ça passe par le verbe. Et puis, donc, les mots, il y a des échanges, etc. Et puis, j'accompagne des gens en respiration holotropique, ça entraîne des états modifiés de conscience. Et cette respiration, c'est basé sur une hyperventilation, donc c'est le souffle. Et dans ces états modifiés de conscience, ça ouvre des espaces. Donc les gens, bah, c'est une expérience et physique, et aussi un autre espace que je ne peux pas nommer. Je ne sais pas si c'est des espaces de l'inconscient qui passent dans le conscient, si ça touche l'âme, etc. Mais tout ça pour dire que y a quand même différents niveaux. On n'est pas toujours dans la même dans le même niveau. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Il peut y avoir des soins qui se passent en effet d'inconscient à inconscient, des soins qui se passent à un niveau des rituels, à mon avis, ça parle, c'est un autre niveau que ça. Ah. Que, enfin, voilà. Moi, j'ai fait des rituels avec toi de tabac. Je peux pas dire où est-ce que ça se passe, à quel niveau ça me transforme. Il y a un niveau physique, cellulaire, peut-être un niveau vibratoire de par les champs, et puis après, il y a un autre niveau que je ne peux pas expliquer, mais que je m'en aperçois au fil des semaines et de façon très subtile. C'est vraiment dans le subtil.
Est-ce que c'est pas ça?
Est-ce que le subtil, c'est l'inconscient? Je ne sais pas, mais je pose la question. Hein. Voilà. Bon, mais c'était aussi pour dire, par exemple, par rapport à la poésie, que ouais, c'est aussi une rencontre. Tu disais, il y a un mystère, il y a par exemple.
Il y a un mystère rituel, le mystère de la personne, il y a quelque chose qui rentre en résonance, parce que c'est là que ça peut se passer. Mais je ne sais pas d'autre expliquer, c'est moi qui réfléchis à ça, mais je n'ai jamais rien lu là-dessus. Moi.
Mais la poésie, ça transforme, ça transcende. Il y a des mots qui transforment, il y a plein de choses qui transforment et qui transcendent.
Oui.
Dont la poésie.
Bruno qui voulait.
Hein?
Bruno voulait prendre la parole.
Vas-y. Ouais.
Moi je suis complètement perdu. Je suis un médecin ordinaire, normo-nosé. Mais en fait, je suis absolument pas dans ce genre de sport ou de pratique, mais. En fait,
bah, c'est pas loin de la philosophie quand même.
Non, mais attends. Donc, deux remarques. Une remarque sur la différence entre le problème, l'énigme et le mystère. Et ensuite, une remarque sur la métaphore, ça va être une remarque plus compliquée. Alors, je pense qu'un problème, c'est une question compliquée, on sait qu'on aura la réponse en cherchant longtemps. Une énigme, moi je pense que la psychologie, c'est plutôt une énigme. C'est-à-dire que c'est une question très compliquée où on sait que peut-être va émerger une réponse. Tandis qu'un mystère, c'est une question pour laquelle on sait que la réponse n'existera jamais. La vie, qu'est-ce que c'est? La mort, qu'est-ce que c'est? Il n'y aura jamais de réponse. Bon. Après, la métaphore. Alors, je ne sais pas si vous allez à me suivre. Je vous raconte un truc par rapport au commentaire psychologique et au commentaire sacré. Le récit, c'est de la prose. C'est une succession linéaire, etc. La poésie, quand même, c'est la métaphore. Et la métaphore, qu'est-ce que c'est? Ça reprend ce que vous dites. C'est-à-dire que la métaphore, c'est en fait un brin de phrase qui va se télescoper avec un autre brin de phrase. C'est-à-dire que si je dis « Oh, ma mémoire, mon beau navire », je fais une métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux registres hétérogènes qui se rencontrent. Ce n'est pas du récit, c'est un effet poétique. Et en fait, dans l'écart des deux, va émerger un monde. C'est-à-dire que le 1 rencontre le 2, et dans l'écart des deux, ravive quelque chose qui ne préexistait pas. Et donc, la métaphore, finalement, c'est peut-être en miniature le modèle de la création. C'est-à-dire que souvent, la créativité, c'est un premier registre. Vous avez des balises, et puis il y en a un qui pense aux roulettes, ça fait des roulettes, et ça réouvre quelque chose. Vous avez un kitesurf, c'est une planche, un oiseau, un poisson, il y a un truc qui se réouvre. Souvent, la créativité, c'est un effet métaphorique dans le sens plus général du terme. Et la psychologie, je pense, c'est plutôt du récit. C'est-à-dire que c'est une narration, c'est quelque chose de la prose, c'est une identité narrative dans laquelle va émerger quelque chose de l'énigme, quoi, hein. Tandis que de ce que j'entends, je comprends du tout ce truc-là, je pense que c'est un effet métaphorique. Il y a une vérité métaphorique qui émerge, qui est plus poétique que celle de la psychologie, dans le sens où il y a deux registres complètement hétérogènes. Il y a une personne qui arrive avec son identité mystérieuse, mais qui arrive, et puis qui se retrouve avec une figure d'étranger, c'est-à-dire qu'il est avec une figure d'étranger totale. Un personnage complètement incroyable, qui a pris des rituels complètement d'ailleurs, etc. Donc il y a un effet métaphorique, c'est-à-dire qu'il y a un brin standardisé de prose, de la personne, qui rencontre une figure d'étranger totale, c'est-à-dire une autre culture, une autre façon de faire ça. Mm. Et je pense que dans l'écart des deux, se réouvre quelque chose qui n'est pas de même ordre que la psychologie. Je pense que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que dans l'écart des deux, il y a une création qui se crée. Il y a quelque chose qui se crée dans l'écart. Mm. Et la personne... Alors, je ne sais pas si vous me suivez dans mon explication.
Oui, très bien. Voilà.
Okay. Alors, une métaphore. Ce qui est intéressant, c'est qu'une métaphore, c'est une erreur et ce n'est pas une erreur. C'est-à-dire, si je ne connais pas de métaphore, moi, le temps est un mendiant, par exemple, Shakespeare, c'est une erreur, c'est-à-dire que c'est pas un mendiant, le temps n'est pas un mendiant, et en même temps, ce n'est pas une erreur. C'est-à-dire que c'est une erreur et ce n'est pas une erreur à la fois. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à entendre le sens métaphorique? C'est qu'il faut de la confiance dans la phrase qu'on lit et qu'il faut de la réceptivité. C'est-à-dire qu'il faut accepter que ce ne soit pas une erreur. Et je pense que la personne qui vient là, il faut qu'elle soit dans une ambiance comme le lecteur de métaphore. C'est-à-dire qu'il faut que tu installes une confiance et qu'elle soit réceptive à ce télescopage, à ce carambolage, pour partir en ayant confiance qu'il y a un sens émergent qui puisse émerger. Quoi. Donc, je pense que la psychologie, c'est plutôt de la prose, de la narration, là où il y a un effet métaphorique, non pas de poésie, parce qu'il va dire un petit truc avec sa... ces formules, ça y fait, mais dans le sens où il y a deux registres complètement hétérogènes qui se rencontrent, qui sont une erreur, parce qu'on a une erreur de faire des rituels alors que la personne a... et qui n'est pas une erreur en même temps. De la même manière qu'une métaphore, si je dis « oh, ma mémoire, mon beau navire », c'est une erreur. Et en même temps, c'est pas une erreur. Mais quand on est confiant et réceptif, on voit émerger un sens inédit qui est un effet créateur, quoi. Donc, j'y comprends rien. Mais je me dis
que
non, mais je c'est pas du tout mon sport, hein, ouais. Mais je me dis que peut-être l'effet miraculeux, en fait une métaphore c'est un miracle quand même, hein. L'effet miraculeux, peut-être que la séance est une grande métaphore quelque part. Mmh. C'est deux brins de phrases qui se rencontrent et qui font l'effet métaphorique. Mmh. Et en fait, où est-ce que ça se passe? Vous avez peut-être un espace qui se dégage, subtil, futile, je sais pas. C'est peut-être dans l'écart des deux, comme ça. C'est ni l'un ni l'autre, c'est la rencontre. C'est-à-dire que c'est un 1 avec un 2 qui fait un 3. C'est peut-être le 3 qui fait thérapeutique. Voilà, c'est un petit commentaire sur la
Oui, ta remarque est tout à fait.
Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent.
Attends, je vais rebondir là-dessus. Ta remarque est vraiment judicieuse. Ta remarque est judicieuse. C'est vrai que dans la discussion psychologique, il y a une même culture. Ouais. C'est clair, il y a les mêmes façons de parler, c'est la même langue, etc. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, c'est un peu expliqué dans La musique et la transe de Rougier. Si vous lisez, Gilbert Rougier, tu as dû lire un peu, c'est un livre remarquable. Hein. Et sur la transe, mais lis-le, tu vois, c'est très intéressant. Et c'est vrai que les rituels que je chante, c'est en quechua, c'est en indien, une langue indienne, en espagnol, mais quelques-uns en français. Et il y a c'est vrai qu'il y a quelque part, comme un... Après ça, une métaphore, il y avait un très beau livre, ça s'appelait Il Postino. Tu n'as pas vu ce film magnifique?
Pablo Neruda,
magnifique, voilà, avec Pablo Neruda, le facteur qui veut apprendre la poésie, et dit c'est métaphorique, c'est un film délicieux. Et il y a quelque chose de bizarre. En fait, les gens viennent chercher une nourriture qu'ils ont en eux. C'est pas moi qui leur donne.
Je suis pas sûr.
Ah si.
Non, je pense qu'ils l'ont pas en eux, c'est pas toi qui l'as, et je pense que c'est dans la rencontre que surgit un phénomène religieux, c'est-à-dire qu'il y a une création ex nihilo. Je pense qu'elle existe ni chez l'autre. Je pense qu'il y a un inexistant qui se relève, mais il ne préexiste pas. Sinon, ça serait du Socrate.
Alors, on va quand même redonner la place à la poésie. Attends, c'est toi qui dirige le débat, dis-moi.
Non, mais si tu veux dire...
Alors, quand même, parce que la poésie, c'est ça. Écoute, ce livre-là, je le lisais, j'étais en première année de médecine et je pleurais. Pour dire que... Et j'ai cherché pour... je ne voulais pas faire trop de poésie, je voulais apporter l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore. J'ai adoré ce livre, mais je ne l'ai pas retrouvé, alors je ne sais pas où il est. Et donc, en cherchant dans mes bouquins, j'ai vu ça, je me dis, bon Dieu, tu te rends compte, tu lisais ça, tu avais 20 ans. Écoutez ça, c'est beau comme tout. Une manière d'ange était assis sur le bord d'une fontaine, il s'y mirait, et se voyait homme, et en larmes, et il s'étonnait à l'extrême de s'apparaître dans l'onde nue, cette proie d'une tristesse infinie. La figure qui était sienne, la douleur qui s'y peignait, lui semblait tout étrangère. Une apparence si misérable intéressait, exerçait, interrogeait en vain sa substance spirituelle, merveilleusement pure. « Ô mon mal, disait-il, que m'êtes-vous ? » Il essayait de se sourire, il se pleurait. J'arrête là parce que c'est tout très beau. Mais c'est pour montrer comme le mot, bah vous le savez, met dans un état particulier. Mmh. Et je ne sais pas quel temps m'est imparti, mais ça peut être l'objet d'une autre chose. Je vais écrire là-dessus.
Mmh. Officiellement, il nous reste 20 minutes.
Ah, mais pas, je peux parler 20 minutes ou non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Alors, je vais quand même.
Tu veux parler une demi-heure.
Bon, bah, je m'arrête quand tu veux, c'est toi.
Enfin, après, on est ensemble.
Voilà, on est ensemble.
Non, alors, j'ai rien de
je voudrais ça. Introduire quelque chose, je vais écrire là-dessus. Quand les chamans disent je suis l'intercesseur entre l'esprit d'une plante qui va venir pour soigner ton cœur ou ton problème. Autrefois, je vais faire très court, tu vois. Autrefois, l'esprit d'une plante. C'était l'esprit d'une plante. Alors une sorcière ici, elle utilisait la digitale pour soigner une insuffisance cardiaque. Mais ce n'était pas dosé. En fin du 19e, on a découvert la digitaline, qui est le principe actif de la digitale. Et le laboratoire Nativelle a fabriqué la digitaline et l'a commercialisée sous le nom de digoxine. Quelle est la différence entre un chimiste qui dit « c'est le principe actif de la plante qui va agir sur ton cœur » ou le chaman qui dit « c'est l'esprit de cette plante qui va interagir avec toi pour te soigner. Qui a raison ? Est-ce que ce n'est pas une façon différente de parler de la même chose ? Après, souvent on dit, ce sont des si tu veux, chez les chamans, c'était autrefois des théories, c'est dire, tu es malade parce qu'il y a un mauvais esprit qui est rentré en toi. Et donc le chaman, il est capable de découvrir quel est le mauvais esprit qui est en toi, éventuellement, qui l'a émis ? Beaucoup, des histoires comme ça.
Qui l'a émis ? J'ai pas compris.
Qui l'a émis ? Qui c'est qui a envoyé le mauvais esprit qui va rentrer en toi et qui va te rendre malade ? D'accord. Alors, je travaille beaucoup sur les émotions. Les émotions, par exemple, la colère, la rancune, la tristesse, le regret, la honte, la culpabilité, le mensonge, ce sont des mauvais esprits. Clairement. Quelqu'un qui est habité dans son cœur par une colère qu'il n'arrive pas à résoudre, il est habité, alourdi, abîmé par ce mauvais esprit. Quelqu'un qui a une rancune qu'il n'arrive pas à pardonner, il est habité par cette rancune et ça le plombe et ça rend sa vie injuste. Mon travail actuellement, médecin du 21e siècle en centre-ville d'une grande bourgade française, et exactement ces traditions-là qu'ont dit les chamans. Un mauvais esprit, ça ne veut pas rien dire. C'est-à-dire qu'en pratique, bah ça tu vois bien en psychologie, on travaille beaucoup sur ces émotions rentrées. Et à un moment donné, il faut libérer ton cœur. Parce que tu vas passer ta vie en vouloir à quelqu'un, à ton voisin, à ta femme, à ton père, à ta mère. T'en peux plus. C'est pas comme ça que la vie est légère. Or, ce qui nous est demandé, c'est de vivre dans la joie. Qu'est-ce que tu vas faire ? Te faire chier ta vie, toute ta vie. D'accord ? C'est très simple ce que je dis. Je vais citer deux poèmes et j'arrête comme ça. 5 minutes, ça va ?
Bon. On passera la parole à...
D'accord. Enfin, alors, par rapport à ce que j'ai dit sur Christine tout à l'heure, sur le mystère de la femme,
c'est bien fait
que je veux savoir, qui elle est et je me retiens de la découper. C'est-à-dire que j'appréhende cette femme-là avec un esprit poétique et non scientifique. Au cœur de l'homme, solitude. Étrange, l'homme sans rivage, près de la femme riveraine. Et mère moi-même à ton orient, comme à ton sable d'or mêlé, que j'aille encore et tarde sur ta rive, dans le déroulement très lent de tes anneaux d'argile, femme qui se fait et se défait avec la vague qui l'engendre. C'est pas plus beau de côtoyer.
C'est pour ça que j'ai rien.
Hein, c'est pas plus beau.
Ça faisait des émotions.
C'est mieux. Et je vais terminer là-dessus. Encore, je pourrais vous parler de Saint-John Perse pendant des jours entiers. C'est tellement magnifique qu'il a écrit. Et je vais terminer par la fin de l'allocation prix Nobel pour montrer, si tu veux, la, vraiment en tant que médecin dans cette double formation à la fois scientifique et philosophique ou littéraire ou anthropologique, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas comptabilisables vraiment. En 61, il a écrit ça. Je vais juste lire ça. Ne crains pas, dit l'histoire, levant un jour son masque de violence, et de sa main levée, elle fait ce geste conciliant de la divinité asiatique au plus fort de sa danse destructrice, Shiva. Ne crains pas ni ne doute, car le doute est stérile et la crainte est servile. Écoute plutôt ce battement rythmique que ma main haute imprime, novatrice, à la grande phrase humaine en voie toujours de création. Il n'est pas vrai que la vie puisse se renier elle-même. Il n'est rien de vivant qui de néant procède, ni de néant s'éprenne. Mais rien non plus ne garde forme ni mesure sous l'incessant afflux de l'être. La tragédie n'est pas dans la métamorphose elle-même, le vrai drame du siècle est dans l'écart qu'on laisse croître entre l'homme temporel et l'homme intemporel. Ça, c'est fondamental. L'homme éclairé sur un versant va-t-il s'obscurcir sur l'autre ? Et sa maturation forcée dans une communauté sans communion ne sera-t-elle que fausse maturité ? Au poète indivis d'attester parmi nous la double vocation de l'homme. Et c'est hausser devant l'esprit un miroir plus sensible à ses chances spirituelles. C'est évoquer dans le siècle même une condition humaine plus digne de l'homme originel. C'est associer enfin plus hardiment l'âme collective à la circulation de l'énergie spirituelle dans le monde, face à l'énergie nucléaire, la lampe d'argile du poète suffira-t-elle à son propos ? Oui, si d'argile se souvient l'homme. Voilà, j'arrêterai là-dessus. Parce que, hein, mais c'est fondamental ça. J'ai eu un vrai choc, je l'ai raconté tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'ai dit, j'en ai parlé à midi. C'est en fait, j'ai eu un grand choc. Je devais faire l'année dernière, à la même époque, un rituel devant un vieil arbre à ma campagne et tout ça. Et j'ai vu sur Internet, sur mon téléphone, Arte, génie génétique, robotique, informatique, ben, tout le truc qu'ils nous proposent maintenant. Et j'étais atterré. Je me dis, mais Patrick, ça m'a plombé, tu vois, d'un coup. Et en fait, on regarde des questions au tout début sur l'âme et sur l'esprit. Je crois qu'il ne faut absolument pas avoir peur. On regarde ce qu'il dit. C'est-à-dire que le défi, je pense, du XXe siècle qui nous est posé maintenant, c'est finalement, face à l'homme technologique qu'on nous présente, qu'on est en train de nous vendre, clairement. Hein. C'est en train de se passer comme ça. Finalement, est-ce que la question n'est pas posée à l'être humain ? Finalement, qu'est-ce que c'est l'âme et qu'est-ce que c'est l'esprit ? Parce que moi, où je suis un vieux con has-been, et pas de problème, j'assume, mais où ce qui préoccupe quand même les questions philosophiques de l'être humain sur la notion d'âme et d'esprit ? Est-ce que c'est quelque chose qui a sens pour la destinée humaine ou est-ce que ça ne veut strictement rien dire et donc on va se transformer en machine qu'on aura inventé et qui vont probablement se supplanter à nous. J'arrête.
Donc après, je ne sais pas quel. Enfin, je trouve que tu as ébouriffé notre sens commun. Et puis, je crois que c'est vraiment l'objectif de l'Ethnocafé de mettre en route la pensée. Et alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir. Notamment, enfin, vous qui veniez entendre parler du chamanisme, est-ce que, enfin. Est-ce que vous n'êtes pas plus sur votre faim ? Est-ce
oui.
que vous êtes, et pourquoi
Parce qu'on a parlé. Déjà, le but, ce n'était pas chamaniste. Mm-hmm. Non, c'était plutôt la relation entre la poésie et le soin. Mm-hmm. Et du coup, on a plus parlé de chamanisme de poésie. Et du coup, je passe sur ma fin, mais je pense qu'il y aura d'autres.
Sur ta fin de poésie ou de germanisme ou de quoi?
De poésie.
Ah, pour moi, le propos n'était pas de faire de la lecture de poésie.
Oui, non, mais moi, j'étais ouverte à tout.
Hein. Oui. Mais enfin, j'avais pas compris ça, en tout cas. C'est la poétique après, du soin. Pour moi, c'était très clair la définition de départ.
Que chacun vienne avec ses attentes et que chacun s'exprime. Et c'est normal que tout le monde soit en effervescence et qu'on trouve des choses qu'on aurait
découvert. C'est quelque chose que je connaissais pas. Voilà, oui. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant.
Et je suis d'accord avec toi. Ça me passionne, je réfléchis à ça, j'arrête pas.
J'imagine que ce genre de réunion, c'est aussi de réfléchir dans l'après-coup. Quoi. Presque la technique.
Ouais.
C'est pour ça que ça serait intéressant. Vous aurez l'enregistrement sur le site de réécouter, de le faire écouter. Et...
Donc si on part déçu, c'est que ça veut dire qu'il y a du désir qui va se poursuivre après.
Ah, déçu, non.
Non, pas déçu, si on part.
Curieuse,
on pas de et puis, il explique bien que la prise intellectuelle, la saisie, etc. Ce qu'il propose, c'est la déprise et la surprise. Donc là, on est dans le thème de se repartir sans prise.
Ouais, justement, cette idée de mettre en route la pensée, etc. Je pense que c'est... Enfin, moi, l'objectif, il est rempli, là. Et alors, on va peut-être essayer de finir à l'heure. Je ne sais pas si... Bon, on peut déborder un peu, mais je ne sais pas si... oui, c'est ceux qui n'ont pas pris la parole ont envie de dire des choses. Enfin, voilà. Hein,
pas nécessairement. Alors, si ce n'est peut-être juste pour dire que... je sais, moi ça n'a pas encore mis en branle la pensée, pas tout de suite, mais c'est plus des émotions. C'est étrange parce qu'on n'a pas tellement. Il y a eu un peu de poésie, mais c'est pas forcément ces moments-là qui m'ont le plus ému. Mais voilà, je trouve que parler de ces choses finalement et de ce mystère, ça reste un peu tabou ou un peu. Alors je sais pas si c'est parce que c'est encore un peu tabou dans le quotidien. Le mot tabou est un peu fort, mais en tout cas on évite soigneusement de se confronter au mystère. Mais finalement, ça fait du bien, je trouve, d'entendre parler de ça. Voilà.
C'est l'essentiel. On ne fait que nous distraire.
C'est bien.
Là, il n'y a pas de distraction. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qui va prendre ta vie à ta place? À part toi. Et t'en fais quoi? Il n'y a que ça qui m'intéresse.
Quand tu parles de mystère, tu dis qu'il ne faut pas le connaître, il ne faut pas l'apprendre.
Je ne dis pas il ne faut pas.
C'est parce que c'est juste pas possible de pouvoir comprendre le mystère, ou c'est juste par respect et pour rester humble face au mystère?
Alors, ça que c'est quelque chose de particulier. Un jour, j'étais allé... Non mais excuse-moi, c'est des sujets très intéressants. Un jour, j'étais un truc, tu sais, les trucs philosophiques de... du collège Sainte-Marie, là, les maristes, là. Mm-hmm. Et il y avait Michel Serres. Tu sais ce qu'il dit? Il dit, pour moi, il n'y a rien de sacré, je pénètre à cheval dans tous les sanctuaires.
Bam.
Direct. Boum. Alors moi, j'étais un peu timide, quand même. Et lui, c'est un coin. Non, mais c'est à dire que je veux quand même avoir les références. Si je pose des questions, si je parle avec quelqu'un, il faut que j'ai les mobs derrière, sinon ça sert à rien. Et ça m'est resté dans la tête. Alors, ça, c'est un grand débat. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la démarche scientifique. Pour lequel il n'y a rien de sacré. Tout est possiblement analysable, décorticable, découpable, etc. Alors, j'ai peut-être un ton péremptoire, mais je suis quelqu'un, et je te remercie, qui cherche la confrontation. Parce que je pense qu'on a besoin de la confrontation d'esprit, de réflexion, pour que la chose juste émerge. Très sincèrement, avec les chamans, qui est ma deuxième voie d'apprentissage spirituel, la première étant chrétienne, avec les grands pensées mystiques chrétiens ou les philosophes chrétiens. J'ai adoré Simone Veil, la philosophe. La pesanteur et la grâce, c'est un livre remarquable. J'ai adoré les écrits de Charles de Foucault. J'aime ça. J'ai aimé ça, beaucoup. Et toujours, si tu lis par exemple de Roger Caillois, L'homme et le sacré, qui est une pure merveille, il explique très bien ce que c'est le sacré. Le sacré, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois divin, mais qui est à la fois, si on le touche, on aura une punition très très grave. Parce que c'est une grosse transgression. Chez nous maintenant, les choses sacrées, je me demande, alors le drapeau français, parce que tu as le sacré laïque et le sacré religieux, le football, on m'en sort, qu'est-ce que j'en ai à foutre, mais vraiment rien du tout. Le dollar, l'argent, tu sais, Gainsbourg, quand il avait brûlé le truc, il n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit de brûler ton billet de banque, c'est toi qui l'as gagné. Tu le brûles et tu n'as pas le droit. Et tu vas en taule, hein, pour un truc pareil. Et. Quoi ? Il y a longtemps, oui.
Non, j'ai la Banque de France, elle est contente si tu veux.
Puis maintenant, avec la planche à billets, c'est pas grave. Donc, ça, c'est une vraie question, de fond. Est-ce que tout est possiblement. Comment dirais-je ? On doit travailler sur n'importe quoi, il n'y a pas d'interdit. Je rappelle dans la Genèse deux arbres. Le premier, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec l'histoire de la pomme, Adam et Ève, etc. Tu sais, du reste, pourquoi Adam et Ève, ils n'auraient pas pu être chinois ? Ils n'auraient pas pu être chinois, tu sais ? Même parce que sinon, ce n'est pas la pomme qu'ils auraient bouffée, c'est le serpent. Mais ça bouffe tous les chinois. Alors, dans la Genèse, il y a deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec la pomme. Le deuxième arbre qui est peu connu, c'est l'arbre de la vie éternelle, gardé par des chérubins aux armes flamboyantes. Ce qui se passe maintenant, et je n'ai pas de situation, par instinct je dis ça ne me plaît pas leur bazar, mais en même temps je n'ai pas de raison pour dire non. J'ai l'impression que la démarche actuelle scientifique, tant dans la recherche que dans ses applications technologiques, comme il dit là, me semble malsaine, transgressive, dangereuse pour nous, clairement. Regarde comme ça évolue, il n'y a pas longtemps c'est la bombe atomique, l'énergie nucléaire, maintenant on ne sait même pas où ça va, on ne sait pas où ça va, du tout. Clairement ça me déplaît, tu me dis demain tu vas aller à ta campagne à cheval, tu vas aller bosser à cheval, je prends tout de suite, à pied je prends tout de suite. Il semblerait qu'il y ait une espèce d'entraînement terrible, par les machines créées par les découvertes scientifiques, qui m'emmène dans un endroit qui me déplaît. Et je peux rien dire d'autre que ça. Alors, la conclusion, c'est que je suis un vieux con et que je ne vis pas avec mon temps. Mais quelque part, je trouve aussi que c'est transgressif. La vraie question qui se pose, c'était évoqué dans « Pourquoi j'ai mangé mon père ?» Voilà. Tu l'as lu, ce livre magnifique ?
Vraiment, hein, vraiment celui-là.
Ouais, c'était un livre magnifique, pourquoi ça. J'ai tué, oui. Pourquoi j'ai tué mon père ? Pourquoi j'ai tué mon père ? Pourquoi j'ai tué mon père ? C'est-à-dire que... Tu l'as lu, celui-là. Oui. Alors, c'était pas du tout en rapport avec l'histoire de Freud et de combattre le chef du clan, là, enfin, oui, de tuer le père. C'est pas du tout ça. C'est finalement... Dans la démarche de l'être humain, d'utiliser les outils que la nature, semble-t-il, lui offre pour faire, je ne sais pas quoi, en tout cas, se faire bouffer, etc. Ça commence dans... Pourquoi ça se passe au temps de la préhistoire ? Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui vole le feu, qui arrive à manipuler le feu. Donc la question... Puis alors, bon, bah, t'as le début. Au début, c'est bien parce que tu te fais bouffer, tu chauffes ta baraque et tout. Et après, ben... Bah, tu connais pas bien, tu fous le feu à la prairie parce que t'as pas fait gaffe au vent dominant et tu brûles tout le monde. Et du coup, c'est dangereux. Et après, tu vas comme ça jusqu'à l'énergie nucléaire, jusqu'à l'informatique, jusqu'au génie génétique, jusqu'à ce qu'on voit maintenant. Terrible. Moi, de mon cœur, ça me déplaît. Mais j'ai que ça à dire. J'ai donc rien à dire. Finalement, qu'est-ce qui est juste dans la démarche humaine ? Est-ce qu'on va chercher tous azimuts ? Et on fait les apprentis sorciers, avec la phrase célèbre « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ou est-ce que, autre chose, mais j'ai pas d'idée. Très sincèrement, aidez-moi, j'ai qu'une envie, c'est de pleurer quand je vois comme le monde se transforme, alors que le monde est si beau.
Tout à l'heure, t'as dit qu'il fallait être joyeux.
Je suis joyeux, absolument. Je vais, voilà, absolument. Okay. Mais aidez-moi, aidez-nous, parce que... Ce qui se profile, et c'est probablement un des sens cachés de tes réunions, c'est pour essaimer le savoir, etc. Dire, mais attendez, On nous dit, fais ci, fais pas ça, machin truc, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, est-ce que c'est ça qu'on veut pas? Et qui va commander maintenant? Déjà, c'est un feu rouge qui te commande. Là, tu vois, avec le téléphone, ils sont en train de tout truc. Qu'est-ce que ça va devenir un être humain? Quelle est la définition d'un être humain? Finalement, qu'est-ce que l'âme et l'esprit? Alors, sur l'âme et l'esprit, ça, c'est des trucs... Voilà. En fait, moi, je crains pas le déterminisme, comme je crains pas le mystère. T'es déterminé par l'évolution des espèces, Darwin. T'es déterminé par ta génétique. Watson et Crick, 1953, et Mendel, fin 19e. T'es déterminé par ton inconscient, Freud, début 20e. Et tu es déterminé par ta sociologie, Bourdieu. D'accord ? T'es déterminé par ça.
Non, on n'est pas déterminé, on est constitué.
Constitué, donc déterminé.
Non, constitué, on peut.
Ben, excuse-moi, tu n'es pygmée ou tu n'es à 2 mètres, t'as une détermination, tu ne vas pas sauter à la même hauteur.
Parce que la détermination, c'est un truc implacable. Tandis que constitué, ça veut dire qu'on peut transformer une épreuve en ressource, qui est une capacité de subjectivation. C'est-à-dire qu'on peut, transfigurer une difficulté en ressources, c'est pas pareil.
Bah, t'es né aveugle, d'accord, il y a des mecs qui ont écrit en disant que finalement je suis né aveugle et puis c'est pas si mal, mais quand même, t'as quand même une putain de détermination.
Si on était déterminé, ce serait triste comme tout.
Quoi ?
Alors, si on était vraiment que déterminé, ça serait...
Eh bien justement, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est non. C'est-à-dire qu'on n'est pas que déterminé. Alors là, j'ai défini 4 lignes de force. Pour moi, il y en a une 5e. C'est ce que j'appelle, enfin, c'est l'âme et l'esprit. C'est-à-dire très probablement... Il y a quelque chose qui m'a évoqué ça, notamment c'est un livre d'Arthur Koestler qui s'appelle Les Somnambules. Tu l'as lu ce livre? Magnifique. C'est un répertoire historique de la jeunesse des découvertes physiques et astronomiques. 60%, ça va plaire à la psychologue, 60% des découvertes fondamentales de la physique et de l'astronomie sont faites à l'état de rêve. Le mec, il est en pleine nuit. Sa formule lui vient dans la tronche, il se réveille, il écrit son bazar, terminé. Lisez Les Somnambules, Arthur Koestler. D'où ça vient? D'où ça vient? Personne n'est capable de répondre. Alors on va te dire, ah ben, la journée, t'es concerné, tu penses, du coup la nuit, tu repasses ton film, etc. Et la solution vient. Est-ce que c'est si vrai que ça?
Ça répond au pygmée, tout d'un coup, de découvrir l'équation de Schrödinger.
Alors, tu sais ce qui est venu au pygmée? Il y a un livre fondamental, tout à fait intéressant, qui s'appelle Les plantes des dieux. C'est un livre qui est fait par Schultes et Hoffman. Hoffman, c'est lui qui a découvert le LSD. D'accord? On travaille à partir de l'ergotstein. Dans ce livre sur les plantes des dieux, il y a à peu près 130 plantes qui sont décrites, utilisé dans le monde entier, dans les sociétés du monde entier, dans les rituels du monde entier. Tu poses la question, ça se passe tout partout. C'est un pote américain qui m'a posé la question. Tous les rituels chamaniques, avec plantes ou sans plantes, se passent exactement de la même façon. Partout. Les chants, les danses, les diètes, l'abstinence, etc. Qu'est-ce que je voulais dire là? C'était quoi le truc là? C'était quoi?
Sur les pygmées.
Ah oui, alors les pygmées, justement, c'est assez incroyable. Il y a au Gabon, c'est une plante qui est devenue patrimoine national du Gabon, s'appelle l'iboga, Tabernanthus iboga. Ce sont les pygmées qui, par un rêve, je crois même une femme pygmée, bon, ça c'est les limites, etc., qui a expliqué comment il fallait utiliser l'iboga pour avoir des visions sur les ancêtres. Et donc comprendre comment les choses doivent se faire. Les pygmées. Les gens qui trouvent des choses maintenant, je sais pas. Réellement, ce que je dis, c'est ce que je pense. C'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est finalement la vraie question de l'homme du 21e siècle, c'est-à-dire ma pomme, entre autres, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit? Est-ce que c'est... Ça veut rien dire. Est-ce que c'est une construction humaine pour soulager son angoisse vis-à-vis de la mort ou de son destin inconnu? Ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui nous anime réellement et qui sert quelque chose de mystérieux de l'humanité? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Aidez-moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Mais cette question, elle est comme le monde. Hein.
Mais moi, je te suis très très bien. C'est-à-dire que si on prend la technique et la mystique,
oui.
On voit bien que la flèche technique part à toute berzingue,
oui.
comme à cheval galop, et que la mystique est très très faible.
Oui.
Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut revaloriser les valeurs du soin, de la poésie, de la rencontre avec les réels, etc. Mais par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait d'attaquer la technique. Je pense qu'il faut... il faut mettre en tension féconde la mystique et la technique. Mais je ne pense pas qu'en faisant la gueule, on changera grand-chose sur l'évolution. Je pense qu'il faut revaloriser.
Mon vieux, je suis comme toi, j'ai mon portable à côté de moi. Ouais. Mais il n'y a pas de souci.
Je trouve ça merveilleux.
Non, non, mais d'accord, d'accord. C'est plus que merveilleux, c'est fascinant.
Non, je pense que... Ça, c'est de l'exactitude. La vérité dont tu parles, c'est de la vérité. L'exactitude, c'est pas de la vérité. Et je pense que l'exactitude, très bien, ça va trop vite, il y en a trop. Il faut remettre de la vérité, le soin c'est de la vérité, etc. Je pense qu'il faut redonner de la valeur à ce qui a été complètement disqualifié. Mais je ne crois pas qu'il faille essayer de rabattre la technique
on en peut
la
pas, disqualifiant. Je suis d'accord.
Non, mais même pas ça, c'est que la disqualifier, à mon avis, c'est contre-productif. Elle va continuer à augmenter. Et ce qu'il faut, c'est raviver la mystique dont tu parles, ou l'âme, etc. Il faut le raviver pour que la source tienne.
Je suis voilà. d'accord donc, avec toi.
La petite différence, c'est que tu sauves l'un en disqualifiant l'autre.
Alors, je m'excuse, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais exprimer, c'est simplement, dans ma dimension humaine, par rapport à ce qui se passe au niveau technologique, comment on nous le vend, parce qu'on c'est pas cadeau, hein. Et là où ça nous emmène, et on ne sait pas, parce que là il y a une putain d'inconnu aussi. Eh ben, je m'excuse, c'est pas ce que je voulais faire. Je ferai plus attention la prochaine fois. Je ne veux surtout pas disqualifier la technologie, mais quand même. Revenir à ce qui est dit des anciens sur le frontismus de... C'était où? Qui est-ce qui disait ça? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais, oui, exact, c'est Rabelais, oui, je crois que c'est ça.
Un des personnages de Rabelais.
Et très clairement, même si je suis un joyeux, fondamentalement joyeux, par rapport à mes enfants ou de petits-enfants, je me dis ce qui est en train de se préparer... C'est vraiment bizarre. Je peux pas m'empêcher, t'as dû voir le film Soleil Vert. Putain, tu te rappelles le vieux? Moi j'ai l'impression d'être le vieux, tu sais, qui a gardé les livres et tout ça. Moi j'ai gardé les livres de pharmacie fin 19e. C'est tout marqué, parce que le jour où la connaissance va être raptée par Internet, qui vont dire, bon, les livres ça sert à rien, les machins, c'est nous qu'on vous donne tout. Et le jour où ils vont couper les robinets, tu fais comment? Et donc je sais pas pourquoi, j'ai un côté vieux pagu, j'ai gardé les livres de pharmacie du fin 19e. Pourquoi? Tout est expliqué dedans. Les produits chimiques, d'où tu les terres, d'où tu fais, comment tu fais.
Moi, je pense que...
Je te laisse peut-être terminer, puis... Non, vas-y. Tu as pris la parole juste pour pas que quelqu'un enchaîne après, mais non, vas-y.
Ouais, j'arrive. Non.
Parce que peut-être que là, ça va finir par avoir les neurones et puis, voilà, le temps est passé. Peut-être qu'on peut faire un rapide tour de table pour le mot de la fin. Je sais pas si... Christine, un mot sur le mot de la fin.
C'est une déclaration d'amour.
Qui est peut-être comme ça.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Bruno,
ouais, moi, je comprends pas du tout ce genre de sport, mais par contre, je suis très sensible au fait qu'il y a des âmes privilégiées comme ça, qui ont un rapport avec le réel, dans le sens du côté mouvant, etc. Et que, effectivement, ce côté, on va dire, mystique, comme ça, est quelque chose qui manque énormément et que c'est probablement le. Ça qui pourra nous sauver du désastre qui arrive, quoi. C'est-à-dire de mille façons différentes, quoi, hein, que ce soit par le soin, par les rituels, etc. Je pense qu'effectivement, il y a un truc, il y a une source primordiale comme ça qui n'est pas chopable par la rationalité et qui, effectivement, est la source. Donc, je suis très sensible à ce genre de.
Eh ben, merci, ça me fait plaisir.
Merci, Pierrot. Oui. Moi, je suis très intéressé aussi. Je pense qu'il y a peut-être une déconnexion, justement. Je ne crois pas du tout à la notion de progrès. Au niveau de l'être humain. Mais je crois qu'effectivement, il y a une envolée technologique, mais qu'il n'y a pas forcément de progrès au niveau de l'être humain. Il reste des choses très basiques et fondamentales. Quand on voit comment vivaient des gens en Afrique du Sud il y a 70 000 ans, c'est peut-être sans doute assez proche des sentiments, des émotions qu'on peut avoir. Mais je suis très prudent par rapport aux gens effectivement qui critiquent par rapport au décollage technologique. C'est pas forcément lié à un progrès au niveau de l'être humain, mais ce décollage technologique est intéressant. Il m'intéresse.
Okay. Ben, il est intéressant, mais il n'est pas désolidarisé de l'homme, quand même.
C'est Patrick qui va parler.
Ah oui, pardon. Oh, oui, non, mais c'est vrai. Ouais.
J'ai eu l'autre.
Non, moi, j'ai rien de particulier. aviez à dire à ce stade.
Moi, c'est un sujet qui me passionne, hein, la poésie au service de la vie, ou comment la vie est poésie, ou comment nous avons à enchanter nos vies, ou à enchanter un soin, par exemple, puisque c'était le sujet, et que pour moi, enchanter un soin, ou, ça appartient à notre créativité. Et que ben on a ça en nous, un potentiel créatif, et qu'on a à s'y connecter de plus en plus. Mmh. Voilà ce qui me vient juste là maintenant.
Mmh. Ok. Ben moi, c'est vrai que moi, souvent je parle de réenchanter le monde, et notamment par rapport à la question politique au sens large, enfin, ce qui est aussi la question ici. Comment on peut faire en sorte de façon un peu volontariste, de réenchanter les choses, de réenchanter la relation. Et je trouve que la soirée là, c'est un peu ça. C'est, quand on entend Patrick parler, c'est vrai que ça. Il a un côté poétique en lui-même, t'es un poème en toi-même, et c'est vrai que ça te
hey, hey
ça te décale de ton quotidien, et puis ça te permet de revisiter un peu ton propre vécu. Et moi, demain dans mon cabinet, je vais regarder les gens avec voir un gros mystère, et peut-être que je pratiquerai différemment, et voilà, c'est juste arriver à se bousculer un peu comme ça. Je trouve que c'est vraiment l'objectif.
Oui, non, ça aurait très intéressant. Merci beaucoup. C'était à tout le monde, bien sûr. mais c'était très très riche. J'aurais mille et une choses à dire. Très brièvement, je pense du tout qu'on soit dans un monde désenchanté. La preuve, quand tu as parlé de ton smartphone, tu as dit c'est merveilleux. C'est quand même peut-être involontaire, mais pour moi, c'est quand même très expressif du rapport qu'on a à la technique. Par contre, donc je pense que voilà, par contre qu'il y ait des pôles majeurs et des pôles mineurs, et que la mystique soit pas amenée à devenir quelque chose de majeur, ça je pense aussi que c'est aussi une façon de positionner un peu.
Et tu viens de dire que je pense pas que la mystique soit amenée à avoir une position majeure.
Oui, voilà.
C'est ça que tu as dit.
Oui, voilà, je pense que c'est un mode d'existence qui tire aussi ses propres ressources d'une certaine discrétion, en fait, et d'une certaine complexité de compréhension, des efforts qu'on a à faire pour y accéder, pour y donner du sens, etc. Mais voilà, on va regarder des grands dossiers. Il y a un mot qui n'a pas été mentionné ce soir, c'est celui d'interprétation, qui est à l'œuvre dans la question du soin, qui est à l'œuvre dans la question de la poésie, et qui pourra aussi être une autre façon de rejouer la discussion de ce soir, qui pourrait permettre de redéployer ou de relire plein de choses qui ont été dites. Voilà. Je vais m'arrêter là.
Ok.
Merci.
Ok. Voilà. Bonnie.
Bon, pareil, bon, je remercie. C'était vraiment très riche. Puis ça. Il y avait beaucoup d'échos sur des questionnements que j'ai en ce moment. Et puis, ici, moi, j'ai trouvé que c'était très poétique, justement, cette notion du mystère, de l'invisible, de la relation, de l'humain. Enfin, si c'est chouette.
Allez.
En fait, moi, je reviendrai à la question de départ, parce que c'est ce qui m'a un peu. C'est toujours intéressant, hein, de revenir toujours à ce qui a été dit au départ. Enfin, en tout cas, moi, j'y pense, et du coup, ça a été un peu un fil. Lors de cette soirée, et je me suis dit, en fin de compte, pour arriver à la question de, parce que en fait, tu avais dit, je tutoie, qu'est-ce que je fais ? Désolée. Et en fin de compte, quel est le, est-ce que la poésie et la poétique, ça a du lien quelque part? Est-ce que c'est la même chose?
La poésie et la poétique, c'est ça que tu dis?
Oui, il me semble que c'était ça la question.
Enfin, est-ce que la poésie a un lien avec le soin? Enfin,
ouais.
Est-ce que la poétique, oui, ça voulait dire.
Voilà, du coup, là,
ce que. Rapproche entre l'esprit et le corps. Enfin,
ce que tu interrogeais, ce que je comprenais bien, parce que j'interrogeais la même chose, c'est l'outil, en fait, de la rencontre avec l'autre, en fait. Et en fin de compte, le chamanisme, c'est pareil, c'est aussi un outil. Et je me dis, la question finale, ça a été pour moi de me dire, mais en fin de compte. peu importe la manière de rentrer en contact avec l'autre, qu'est-ce que ces outils ont de commun, justement, et où est le mystère, en fait, hein, dans ces outils-là, qui fait qu'on arrive à avoir une rencontre. Je ne sais pas si je suis claire, mais du coup, parce qu'en fin de compte, on est en chacun notre propre mystère. Je pense qu'on a chacun notre propre sensibilité dans la rencontre à l'autre, mais il y a probablement quelque chose qui unit et qui... Et je crois que c'est ça qui interroge. Quel est le... Je ne sais pas, du coup, c'était clair pour tout le monde, mais du coup, c'était pour finir la soirée. Mais voilà, c'est ce qui m'interrogeait sur la fin.
Sur la poésie, je veux juste dire quelque chose. Un des grands traumatismes que j'ai eu, le sujet de mon bac, ça remonte à hier, c'était « La poésie est en train de disparaître, peut-elle réapparaître sous d'autres formes ?» Et j'étais scientifique, j'ai développé à fond que chez Le Corbusier, par exemple, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, il y avait de la poésie, que dans la mécanique, il y avait de la poésie, tout ça. Mais je crois que je n'ai pas du tout convaincu, puis j'ai eu 5 sur 20. Voilà, la grande frustration.